sujet, appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, rejoignez-nous, où que vous soyez à travers le monde, vous êtes les bienvenus, vous nous écoutez en France, appelez-nous également, nous sommes vendredi, vous pourrez dans un instant évidemment commenter l'actualité de votre choix, c'est la libre antenne, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, les sujets qui ont fait la une de l'actualité, je vous cache pas que vous êtes nombreux encore ce matin à souhaiter revenir sur les attentats de la semaine dernière en France, beaucoup de réactions également sur la lutte contre Boko Haram, contre ce groupe islamiste radical qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria, mais aussi chez les pays voisins, notamment au Cameroun. Beaucoup de réactions de Camerounais au standard. Nous vous donnerons la parole. En tout cas, tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et j'en profite aussi, c'est vrai que j'ai tendance de temps en temps à oublier, mais j'en profite pour vous rappeler que nous avons encore une adresse électronique, le courriel. Et oui, on peut toujours envoyer des courriers électroniques. Notre adresse appelauplurielactu@rfi.fr. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, avec tous les journalistes ici à la radio, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde qui, chaque matin, prennent le temps de vous parler, de répondre à vos questions, de vous permettre de mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. La première question, elle nous est posée par Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio, bonjour à tous vos partenaires en studio et à vous particulièrement Juan, mes félicitations pour la naissance de votre nouveau bébé.
Ah bah merci, je vois que la nouvelle n'est pas passée inaperçue. Merci en tout cas Eric. Vous êtes à Berlin et vous avez des questions concernant Pegida. Alors Pegida, c'est ce mouvement anti-islam en Allemagne.
Oui, Juan, c'est vrai que nous assistons environ ces quatre derniers mois le mouvement de Pegida. Alors la question, j'ai deux grandes questions, hein, Juan, à ce sujet. Je voudrais savoir tout premièrement qu'est-ce qui explique donc ce mouvement Pegida et quels sont ceux qui sont à l'origine et exactement pourquoi avoir choisi donc la ville de Dresden comme centre d'origine.
Ouais, Pegida.
C'est la première question.
Pegida, l'acronyme allemand pour Patriote d'Europe contre l'islamisation de l'Occident. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Eric.
Vous êtes le correspondant des RFI en Allemagne. Depuis le mois d'octobre, ce mouvement appelle à manifester chaque lundi contre l'islamisation. Alors, au début du mois d'octobre, ils étaient quelques centaines. Lundi dernier, ils étaient, je crois, 25 000 à manifester à Dresde. Comment expliquer l'émergence de ce mouvement et surtout le succès sans cesse grandissant de Pegida?
Alors, sur l'émergence de ce mouvement et pourquoi maintenant, il faut dire qu'il intervient dans un climat tendu, on pourrait d'ailleurs dire la même chose dans d'autres pays. On a eu depuis l'automne dernier, il y a eu plusieurs mois, des manifestations dans différentes villes d'Allemagne contre des foyers de demandeurs d'asile qui devaient ouvrir. Il est vrai que l'Allemagne a battu un record en ce qui concerne les chiffres des demandeurs d'asile en 2014 avec 200 000 personnes. Il y a eu aussi, il y a quelques semaines, des manifestations violentes, spectaculaires qui ont aussi troublé les esprits, des hooligans violents qui s'en sont pris à des salafistes, un mouvement islamiste assez virulent en Allemagne. Il y a eu, c'était certes plutôt un quelque chose de très médiatique et pas très important, mais cette police de la charia dans une ville de l'ouest de l'Allemagne, là aussi ça a pas mal défrayé la chronique et nourri un peu les peurs ambiantes, et puis des talk shows sur le thème l'islam est-il un danger, qui aussi contribuent à créer un terreau favorable à ce genre de mouvement. Et donc, c'est donc né d'une initiative au départ individuelle, à Dresde en effet, avec une page Facebook, et comme vous le disiez, lors de la première manifestation, 500 personnes, donc quelque chose de très modeste.
Et aujourd'hui, on en est donc à 25 000 personnes, c'était en tout cas le nombre de manifestants comptabilisés dimanche dans les rues de Dresde. Qui sont les leaders aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui incarnent ce mouvement?
Alors, la personne qui a lancé ce mouvement à Dresde, qui n'est plus seul, mais qui en reste quand même l'incarnation, c'est un certain Lutz Bachmann, un quadragénaire qui a un passé, dirons-nous, assez lourd, avec un casier judiciaire bien fourni, avec des cambriolages, détention de grog. Il avait d'ailleurs fui l'Allemagne pour se réfugier en Afrique du Sud avant d'être repéré sur place et d'être extradé. On vient d'annoncer qu'il y aurait un nouveau procès contre lui à la mi-mars. Bon, dans un autre registre, parce qu'il n'a pas payé ce qu'il devait payer, les pensions à sa femme pour leur enfant. Quelqu'un qui, a priori, n'incarne pas forcément la pureté en soi contre ce que les manifestants considèrent comme un danger. Et puis peut-être, on n'a pas encore tout à fait répondu à la question sur le pourquoi Dresde, la capitale de la Saxe dans l'ex-RDA, est la capitale, le fief de ce mouvement, puisqu'il faut rappeler que lundi dernier, certes, on a battu un nouveau record à Dresde, mais qu'il y avait environ 100 000 personnes dans toute l'Allemagne qui ont manifesté contre Pegida.
Ouais, il faut quand même préciser, Pascal Thibault, que l'ensemble de la classe politique essaye de lancer un contre-mouvement. La classe politique, la société civile, elles se sont d'ailleurs mobilisées en début de semaine, porte de Brandebourg, de Brandebourg à Berlin. Il y avait du monde pour défendre justement la liberté religieuse, la liberté d'opinion.
Tout à fait, il y a eu une veillée symbolique avec l'ensemble de la classe politique, en tout cas des partis représentés au Parlement, avec la chancelière, de nombreux ministres et des représentants des différents groupes religieux, des différentes religions en Allemagne. L'initiative avait été prise par une organisation représentative des musulmans d'Allemagne à la suite des attentats de Paris pour montrer « nous condamnons ces attentats, nous n'avons rien à voir avec ces terroristes qui ne représentent pas l'islam », qui ne peuvent pas parler en notre nom. C'était le signe qui devait être émis lors de cette manifestation. Et effectivement, les réactions des politiques, qui ont souvent quand même, il faut le dire, notamment à droite, pas très bien su comment réagir. Faut-il aller à la rencontre des manifestants Pegida, dialoguer avec eux, comprendre leurs peurs ou au contraire les rejeter, comme l'a fait le ministre de la Justice social-démocrate, en plus ou moins les qualifiant de néo-nazis en puissance, ce qui a sans doute été parfois contre-productif et parfois pu contribuer à une mobilisation supplémentaire, puisqu'il y a quand même un rejet très fort de la politique parmi les manifestants, non seulement d'un danger potentiel de l'islam, mais aussi de la politique en général. Et donc, se voir qualifié de néo-nazi en puissance a sans doute aussi pu contribuer à la mobilisation supplémentaire à laquelle on a assisté lors des dernières semaines.
Vous êtes à Berlin, vous écoutez RFI en ce moment et vous souhaitez réagir justement à l'émergence de ce mouvement anti-islam en Allemagne. Appelez-nous, témoignez, évidemment, nous vous donnerons la parole. 33 9 693 693 70. Merci Pascal Thibault, correspondant d'RFI à Berlin, et on remercie évidemment Eric. 33 9 693 693 70. David est en région parisienne. Bonjour David.
Oui, bonjour Juan, mais appelez-moi Charlie plutôt.
Ah Charlie, bah écoutez, j'avais David sur ma petite fiche, mais
oui,
si vous souhaitez qu'on vous appelle Charlie.
Je suis Charlie.
Vous êtes Charlie, très bien. Dominique Ongwen, l'un des derniers chefs rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, a été interpellé, il s'est même rendu, pour être plus précis, il sera jugé par la Cour pénale internationale, et vous avez des questions justement sur Dominique Ongwen.
Oui, Juan, déjà bonjour à toute l'équipe, aux auditeurs et à Thomas. J'ai appris, en effet, il y a 2 semaines, qu'un chef rebelle, le nommé Dominique Ongwen, s'est rendu aux autorités locales. Ma question était de savoir comment expliquer qu'il se soit rendu et appelle-t-il ses troupes à déposer aussi les armes.
Bonjour Sarah Sacco.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante d'RFI en Ouganda. La LRA, rappelons tout de même que c'est cette rébellion qui est responsable de nombreuses exactions contre les populations civiles en Ouganda, en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Selon l'ONU, en 30 ans, la LRA aurait tué plus de 100 000 personnes. Alors effectivement, on peut comprendre la question de Charlie. Comment se fait-il qu'un homme qui est recherché par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, comment se fait-il que cet homme décide tout d'un coup de se rendre ?
Oui, effectivement, et il est très difficile de répondre avec précision, en tout cas par une seule réponse à la question de David. Ce qu'on peut apporter, par contre, c'est plusieurs pistes de réponse. Vous savez, lundi, la télévision ougandaise NTV a diffusé en fait une interview attribuée à ce Dominique Ongwen, ce qu'ont par ailleurs confirmé plusieurs experts de la LRA. Et dans cet enregistrement, en fait, Ongwen avance lui-même plusieurs raisons à sa défection. Alors d'abord, il explique que Kony menaçait en fait de le supprimer, de le tuer, et que c'est pour ça qu'il s'est enfui. Ensuite, il explique que Kony n'a aucun plan d'avenir pour la LRA, qu'il a compris qu'en fait qu'il n'allait nulle part en tant que combattant de la LRA, qu'il avait décidé de se rendre. Par ailleurs, il accuse son ancien mentor, Kony, de vouloir simplement diriger, régner en maître, et d'utiliser les hommes de la LRA comme simples esclaves. Alors même si la vidéo n'est pas à 100% identifiée, ces raisons font totalement sens. Pour commencer, on sait que Ongwen et Kony ont eu des frictions très sérieuses par le passé. D'après les experts de la LRA à qui on a pu parler, le problème c'est que cette Ongwen en fait a sa propre influence au sein du mouvement. Vous savez que c'est un ancien enfant soldat et qu'il a passé quelques 25 ans au sein de la rébellion, qu'il est monté en grade en fait parce que c'est un combattant très courageux, très cruel. Donc en fait il commandait l'une des quatre divisions du mouvement, la division Signa, ce qui veut dire qu'il avait ses propres hommes. Et d'après les témoignages d'anciens de la LRA qu'on peut rencontrer ici en Ouganda, vous savez, tous ceux qui ont fui le mouvement, eh bien, ces témoignages concordent sur le fait que Ongwen ne laisse jamais indifférent. Il est soit craint, soit admiré par les hommes. C'est donc quelqu'un de respecté, en quelque sorte, entre guillemets, au sein de la LRA. Et en fait, il est à ce titre-là dangereux, entre guillemets, pour Kony. Il est aussi réputé ne pas être particulièrement discipliné, justement à cause de l'influence qu'il a parmi les hommes. Et Kony lui aurait jusqu'ici pardonné ses écarts en raison de son importance. Il était commandant des opérations, ce qui veut dire que tout ce qui est militaire et logistique, en fait, dépendait de lui. Mais il est tout à fait possible, en fait, qu'il ait eu de graves frictions avec Kony et que sa vie ait été en danger. Je vous rappelle quand même que Vincent Otti, qui est un autre commandant de la LRA, a très probablement été assassiné en 2007 sur les ordres de Kony. Autant dire que ce dernier n'apprécie pas la concurrence ou la désobéissance de ses commandants. Il est tout à fait possible que Kony ait menacé Ongwen et que c'est en tout cas que ce soit une des raisons pour laquelle il est déserté.
Et il y a un point qui me semble intéressant, Sarah Sacco, c'est que Ongwen affirme que la LRA, que ce mouvement rebelle finalement est à bout de souffle, qu'il ne va nulle part, qu'il n'a plus d'avenir. Et ça, c'est un argument qui revient souvent chez les anciens de la LRA.
Tout à fait. Il faut peut-être rappeler quelques éléments de contexte pour bien comprendre cela. À la base, quand la LRA a pris naissance dans le nord de l'Ouganda, son objectif était clairement de renverser le pouvoir en place, le pouvoir de Museveni, et d'instaurer à la place un état théocratique basé sur les 10 commandements de la Bible, avec Kony comme grand prophète autoproclamé. En 2006, l'armée ougandaise a réussi donc à se débarrasser de la LRA, en tout cas de son territoire, et la LRA a commencé à survivre dans les pays frontaliers, en petits groupe. Et à partir de 2006, donc, le mouvement a vraiment été dans une logique de survie. Il n'est absolument plus question pour eux d'atteindre Kampala et de faire un coup d'État. C'est absolument hors de question. Et même sur un point de vue politique, ils sont vraiment dans une logique de survie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes qui sont au sein de la LRA ont bien sûr subi un lavage de cerveau. Mais au bout d'un moment, depuis 2006, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la LRA ne rentrera pas en Ouganda, ne renversera pas Museveni. Et malgré le lavage de cerveau qu'ils ont subi, ils commencent à se dire en fait qu'ils n'iront nulle part. J'ai eu l'occasion de parler avec certains de ces anciens combattants, ceux qui sont en voie de réhabilitation dans le nord de l'Ouganda, et ils expliquent un peu tous la même chose, c'est-à-dire qu'il leur a fallu des années pour mûrir la décision de s'enfuir, pour comprendre en fait qu'on leur disait des mensonges, simplement qu'ils étaient instrumentalisés, et enfin décider de s'enfuir. Donc il est tout à fait possible que Ongwen, même s'il faisait partie des chefs de ce mouvement, aient eu la même réflexion et décidé de revenir à la vie réelle. Et il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que ces enfants soldats, ces anciens enfants soldats qui ont grandi et qui deviennent commandants puissants au sein de l'armée, eh bien au bout d'un moment ils ont aussi la même réflexion de penser à leur vie civile, à leur vie passée, à leur famille, au village d'où ils venaient. C'est également quelque chose dont ils m'ont parlé, en tout cas pour ceux que j'ai pu rencontrer. Et finalement, des fois ça leur prend des années, mais ils décident au bout d'un moment de s'enfuir. Donc c'est tout à fait possible qu'Ongwen Rouhane ait lui-même vécu cette réflexion, se soit rendu compte que Kony voulait simplement régner et n'avait plus d'agenda politique et qu'il ait finalement décidé de se rendre.
En tout cas, Ong Wen devra répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale puisqu'il était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Merci Sarah Sacco d'avoir été avec nous en direct de Kampala. Charlie, bonne journée en région parisienne. Il est 9h25. N'oubliez pas la libre antenne dans un quart d'heure maintenant. Vous commenterez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Avec nous en studio, Anastasia Becchio. Bonjour Anastasia.
Bonjour Juan.
Journaliste au service international d'RFI. On vous a demandé de nous rejoindre. On a des questions concernant l'Ukraine. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises ces derniers mois d'aller sur le terrain. Donc c'est un dossier que vous connaissez bien. Bonjour Maki.
Oui, bonjour Juan. Bonjour Anastasia.
Bonjour Maki.
Vous êtes à Conakry, on vous écoute. Vous avez des questions sur l'Ukraine?
En effet, Juan, en effet. Bon, je le disais aussi au standard, hein, cette semaine en Ukraine, on assistait à de nouvelles violences qui ont dû retenir mon attention. Alors, j'aurais des questions à poser à votre correspondante à côté, toutes relatives à cette actualité-là.
Oui.
Alors Anastasia, comment expliquer cette recrudescence des affrontements dans l'est de l'Ukraine après un mois d'accalmie?
Alors c'est vrai, on va déjà répondre à cette première question si vous le permettez. C'est vrai qu'il y a eu une trêve signée au début du mois de décembre. Depuis, eh bien le calme était, on peut le dire, relatif, mais il y avait une situation assez calme. Et là, du coup, depuis quelques jours, on assiste à une recrudescence de la violence. Que se passe-t-il?
Alors c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas dans la tête des belligérants. Il y a tellement de facteurs et d'acteurs qui sont impliqués dans ce conflit qu'on peut finalement avancer que des hypothèses. Mais c'est vrai que les violences ont repris rapidement après Noël, qui est fêté par l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe ukrainienne le 7 janvier. Les tirs d'obus, de roquettes se sont multipliés, notamment dans plusieurs quartiers de Donetsk qui sont situés tout près de l'aéroport, où il y a eu d'ailleurs de très violents combats hier et où la situation est encore très compliquée puisque chacun des camps dit qu'il tient une bonne partie de ce territoire.
Alors on évoquait pourtant une rencontre à haut niveau sur cette crise. Elle devait se tenir hier à Astana au Kazakhstan. Elle a été reportée. Comment expliquer que les violences reprennent justement à ce moment-là?
Alors, c'est vrai que la perspective de ces négociations n'y est sans doute pas étrangère. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Mais comme je le dis, on peut faire que des suppositions, avancer des versions. Alors, il y a l'hypothèse que Kiev aurait décidé de repasser à l'offensive militaire face aux séparatistes. D'ailleurs, l'Ukraine a décidé de prévoir cette année 3 vagues de mobilisation partielle, dont la première débutera dans quelques jours, le 20 janvier, et elle touchera 50 000 hommes, ce qui est beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine maintient la pression et, en même temps, exaspère les autorités séparatistes en imposant un quasi-blocus de la région. Les soldats ukrainiens, par exemple, bloquent régulièrement des passages de camions au barrage qu'ils tiennent. Ils empêchent notamment les marchandises produites dans les zones rebelles de sortir de là, ce qui prive les séparatistes de liquidités qu'ils auraient pu obtenir en vendant ces marchandises à l'Ukraine. Et puis, les autorités ukrainiennes ont introduit de nouvelles règles très strictes. Pour pénétrer dans la zone séparatiste, il faut prouver qu'on habite bien dans cette région, qu'on a des parents très proches dans cette région. Donc très difficile désormais d'entrer dans cette zone rebelle. Donc on peut parler de quasi-blocus.
Oui, alors justement, vous parlez de blocus, on a un peu l'impression que la situation s'était figée. Maki faisait référence effectivement à ce mois d'accalmie. Les combats avaient baissé d'intensité et du coup les lignes ont un peu bougé ou pas?
Alors, le fait justement que sur le terrain, rien ne bouge, que les négociations se poursuivent mais ne donnent rien de concret, est de nature à pousser certains responsables, aussi bien dans le camp séparatiste que dans le camp ukrainien, à jouer la carte de la provocation, à tenter de tirer profit de la situation. Et puis la perspective de ces nouvelles discussions à haut niveau peut faire bouger les lignes de démarcation. Une rencontre devait initialement se tenir aujourd'hui à Astana au Kazakhstan. Elle a été repoussée. Elle pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois, mais pour l'instant, rien de sûr. Il pourrait y avoir d'autres discussions à Minsk. Et du coup, dans chaque camp, on sort les muscles pour tenter de gagner du terrain, pour arriver justement en position de force à ces négociations.
Ouais. Vous aviez une dernière question rapidement, Maki.
Oui, d'accord. Tout à l'heure, je le disais. Alors, quel pourrait être l'impact de ces récentes violences là, sur les négociations déjà en cours?
Les négociations qui sont pour l'instant, on peut le dire, bloquées.
Qui sont bloquées, même s'il y a quand même des négociations en coulisses qui continuent. Donc on vient de voir comment la perspective de ces discussions était susceptible de modifier la donne sur le terrain. Dans le même temps, on peut dire que ces violences bloquent le processus des négociations parce que les diverses parties mettent comme préalable justement à toute nouvelle discussion une cessation des hostilités ou du moins une trêve. On est donc dans un cercle vicieux. Il va, quoi qu'il en soit, falloir trouver une solution puisque la situation se dégrade de jour en jour. Le président Porochenko a dit que la guerre allait coûter plus de 10 millions de dollars par jour. Il va donc falloir négocier à pas d'autres solutions.
Merci beaucoup Anastasia d'être venue répondre à Maki.